bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé lundi 18 juillet dernier de la mise en vente aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Selon le ministre des Hydrocarbures, des appels d'offres pour l'attribution des droits vont être lancés le 28 juillet prochain pour 27 blocs pétroliers, notamment les 2 blocs restitués par l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et 3 blocs gaziers. Les ONG de défense de l'environnement, dont Greenpeace, s'opposent à ces projets. Elles alertent au sujet des conséquences catastrophiques de ces projets sur les communautés locales, la biodiversité et le climat mondial. Quelle lecture faire de la décision du gouvernement congolais de mettre en vente ces blocs pétroliers en dépit de l'opposition de certaines ONG? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons M. Tony Chermani, il est conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures. Monsieur le conseiller Tony Chermani, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Blaise Moudoudossi, coordonnateur de l'ONG Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées en RDC. Bonsoir, monsieur Blaise Moudoudossi.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Luc Loutala, coordonnateur du projet Éco-Village et président de l'ONG Espoir pour tous, une ONG qui fait les reboisements à Kasangulu dans la province du Congo central. Bonsoir, monsieur Luc Loutala.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Merci.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé lundi 18 juillet dernier de la mise en vente aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Mais que peut-on retenir de ces projets? La réponse avec vous, Paul Matendo.
Selon le ministre des Hydrocarbures, sur les 32 blocs initialement sélectionnés, 27 feront l'objet d'appels d'offres pour l'attribution de droits à partir du 28 juillet. Les blocs pétroliers concernés sont répartis à travers différentes régions du pays. 3 dans le bassin côtier, 9 dans la cuvette centrale, 11 dans le graben du Tanganyika et 4 dans le graben Albertine. Les 3 blocs gaziers sont situés dans le lac Kivu, a fait savoir Didier Boudimbou. Le ministre Didier Boudimbou a en outre expliqué qu'avec ses 27 blocs, la RDC avoisine 2000 milliards de dollars américains en termes de revenus, ce qui est très bénéfique pour le pays, a-t-il renchéri. Cependant, les défenseurs de l'environnement dénoncent l'absence de concertation avec les communautés congolaises. C'est le cas de l'organisation de protection de l'environnement Greenpeace qui estime qu'il ne fallait pas attribuer des blocs pétroliers dans la cuvette centrale, un complexe riche en biodiversité qui contient environ 30 gigatonnes de carbone, soit l'équivalent de 3 ans d'émission mondiale des COD. Pour cette ONG, ce projet gouvernemental aurait des conséquences catastrophiques sur les communautés riveraines de ce bloc pétrolier, la biodiversité et le climat mondial.
Merci à vous, Paul Matendo. Les appels d'offres lancés par le gouvernement sur les blocs pétroliers et les blocs gaziers vont permettre à la RDC de se doter des moyens financiers afin de réaliser la montée en puissance des FRDC. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Patrick Muyaya, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement. Il l'a dit lors de la conférence de presse animée ce mercredi 20 juillet ici à Kinshasa avec son collègue du tourisme Moderon Simba. Patrick Muyaya l'a dit à Paul Matendo.
Et donc, lorsque nous décidons de lancer des appels d'offres, notamment sur des blocs pétroliers et sur des blocs gaziers, c'est pour nous doter des moyens de réaliser la montée en puissance de nos forces armées, d'assurer les recrutements des jeunes, de ceux qui vont défendre chaque centimètre carré de notre territoire national. Ceux qui, comme nous, sont préoccupés par des questions climatiques et qu'ils peuvent agir, ils doivent agir davantage. Comment expliquez-vous que à gauche, il y a des parcs où on fait des sommets sur des aires protégées, Comment vous imaginez qu'un pays aussi grand qui détient les principales aires protégées du continent, nous n'y sommes pas allés, évidemment, parce que nous ne pouvons pas y aller, mais qu'on regarde sans rien dire, on veut aller voir les gorilles, il n'y a pas de souci, mais ces gorilles vivent avec de populations riveraines, de populations qui décèdent, qui vivent dans quelles conditions? On ne peut pas nous empêcher de vouloir le bien de nos populations à partir de notre potentiel. Voilà.
Tony Tchermani, je rappelle que vous êtes conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures. C'est la première fois dans l'histoire de ces pays qu'un gouvernement décide de procéder à l'exploitation, n'est-ce pas, de ses potentialités dans les hydrocarbures. À part évidemment ce qui se passe à Moanda depuis plusieurs années, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, cette décision du gouvernement. Mais cela arrive au moment où le monde entier s'engage dans une transition écologique, au moment où la communauté internationale se tourne vers les énergies renouvelables en rejetant, n'est-ce pas, les énergies fossiles. Monsieur le conseiller, est-ce qu'on n'est pas en train de se réveiller en retard?
Merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à rectifier quelque chose. Il ne s'agit pas de mettre en jachère ou de vendre le bloc pétrolier. La loi parle de l'attribution du bloc pétrolier par appel d'offres. Il s'agit bien de l'attribution de la vente. Il faut... parce que chaque mot pèse aussi, hein, dans ce qu'on dit.
Monsieur le conseiller, juste oui. Une précision. Attribution, il ne s'agit pas de vendre. Est-ce que, à l'issue de ce processus, c'est à qui on aura attribué ces blocs-là? Est-ce qu'ils ne vont pas les acheter?
Non, il ne s'agit pas d'un achat. Il y a un contrat de partage de production qui est signé entre la société ou les sociétés requérantes et le gouvernement, représenté respectivement par le ministre des Hydrocarbures et son collègue des Finances, et dans lesquels la société nationale a un minimum de 20% de parts. Donc, il n'y a pas de vente à faire, mais c'est un contrat qui lie les parties pour explorer et exploiter les hydrocarbures liquides et gazés potentiellement pour lesquels le bloc est attribué.
Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de se réveiller en retard au moment où nous sommes dans une autre transition, la transition écologique?
Ben, je crois qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Vous avez suivi les arguments... du ministre de la communication qui est le porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas s'il faudra qu'on ajoute quelque chose à ce qu'il a dit parce qu'il a donné exactement l'orientation du gouvernement quant à ce. Par contre, je vais rapidement vous dire que l'agenda par rapport aux fossiles qui a été notamment décidé ou qui a apparu dans les résolutions de COP26, cet agenda-là n'est pas suivi scrupuleusement parce que vous avez suivi le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui a totalement bouleversé la chose, hein, parce qu'actuellement, les pays occidentaux reviennent même à l'exploitation de charbon, ce qui normalement ne pouvait pas se faire. Donc il y a un bouleversement radical un peu de choses. Donc nous, on ne se réveille pas en retard, il n'est jamais tard pour mieux faire. Et même alors, l'objectif pour l'exploitation des ressources fossiles, c'est en 2030. Nous sommes peut-être à 8 ans de 2030, mais je pense que il y aura un plan, ça ne sera pas une rupture brusque. Par contre, les COP 21 encouragent les pays producteurs des hydrocarbures, de pouvoir valoriser les gaz. Donc, nous sommes dans le bon. La plupart de nos gisements, évidemment, comme ce qu'on a vu déjà à Moanda, c'est des pétroles, vous avez des hydrocarbures liquides qui est lié au gaz, les gaz associés, donc ça va de pair. Vous voulez exploiter les gaz, il faut absolument vous attendre à ce que ça vienne avec du pétrole, et donc vous ne pouvez pas dissocier les deux.
27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, c'est énorme. Hein? En termes financiers, il est dit que, dans ce reportage, n'est-ce pas, que nous avons suivi de Paul Matendo, il est dit que c'est environ 2000 milliards de dollars américains que la RDC espère gagner si elle arrivait à attribuer ces 30 blocs. Monsieur le conseiller, sait-on déjà à quoi servira, n'est-ce pas, cette manne? Est-ce qu'il y a des projets de développement qui seront financés grâce à cet argent? Et quelles sont les garanties pour que, quelques années plus tard, que l'on n'accuse pas les gouvernements actuels d'avoir bradé le patrimoine national en signant des contrats léonés avec les multinationales? En d'autres termes, est-ce qu'on a estimé la valeur réelle, n'est-ce pas, de ces 30 blocs concernés?
Ben, essayez tout simplement d'observer autour de nous les pays producteurs de pétrole. Vous avez l'Angola, où vous avez aujourd'hui un vrai plan de développement en termes de projets sociétaux en faveur de ces populations, des infrastructures de base et tout ça, pour ne me limiter qu'à ça. Ils ont une forte armée aujourd'hui parce qu'ils ont de l'argent qui vient de leur manne pétrolière. Vous avez la Guinée équatoriale qui est un cas palpable de développement. Il n'y a pas longtemps, avant la découverte de sa manne pétrolière, de ses gisements pétroliers, c'était rien la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, c'est une référence à cause de ça. Vous avez tous les pays autour de nous. La solidité de leur budget, c'est vraiment leur manne pétrolière. Donc, on ne peut pas rester à marge. Nous avons cette manne pétrolière. Nous devons nous en servir pour le développement de ces pays. Et même alors, je vais vous dire encore un autre exemple. Ici, dans le Congo central, nous avons un bloc qui s'appelle le bloc Mavuma, où vous avez essentiellement du bitume. Donc, en développant ces blocs aujourd'hui, en exploitant les bitumes, le pays peut être capable de paver des kilomètres de routes, et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'exploiter. Donc, cet argent, vous avez suivi le ministre de l'Information, encore une fois, il a essayé de vous donner l'orientation que le gouvernement accorde à cette exploitation et même l'affectation de cet argent.
J'ai posé une autre question. Quelles sont les garanties pour que l'on n'accuse pas l'actuel gouvernement d'avoir bradé les patrimoines nationaux en signant, n'est-ce pas, des contrats léonés avec certaines multinationales? Est-ce qu'on a estimé la valeur réelle, n'est-ce pas, de ces 30 blocs concernés?
Oui, parce que déjà, pour estimer la valeur des blocs, il faut partir des données qui existent. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens ne le savent pas, nous n'avons pas... Déjà, le découpage de ces blocs ne s'est pas fait au hasard. On s'est basé sur des études qui existent. On a mené des études qui ont démontré le potentiel en termes de ressources de ces blocs-là. Et donc, aujourd'hui, avant qu'une société ne puisse exploiter, il va passer évidemment par l'appel d'offres. Mais au bout de l'appel d'offres, il doit signer un contrat de partage de production dans lequel vous avez des dispositions qui reposent sur les dispositions légales qui vont définir exactement ce que nous devons faire. Et même, il y a une disposition qui porte sur la bonne gouvernance. En plus du fait que nous sommes membres des litiers, tout ce que nous produisons sont publiés, vous le savez déjà comment ça marche pour les mines, par exemple. Et même pour la quote-part du brut que nous produisons aujourd'hui, nous sommes membres des litiers, nous avons les statistiques exactes de ce que nous produisons, de ce que nous recevons. Et donc là, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Nous sommes membres des pays producteurs africains, nous avons des exigences strictes à suivre par rapport à ça.
Et donc, il y aura transparence.
Il y aura transparence, parce que nous sommes membres de l'ITIE, qui est un organe de transparence.
Monsieur le conseiller, est-ce que vous comprenez cette levée des boucliers de la part des ONG de défense de l'environnement qui craignent des conséquences néfastes sur le climat mondial?
Déjà, je crois que le ministre l'avait rappelé. S'agissant des aires protégées, je pense que c'était clair qu'il n'y aurait pas affiatement sur ces aires protégées. Mais il faut aussi comprendre une chose. Avec l'environnement, nous avions discuté sur... une voie de sortie en déclenchant la procédure de l'évaluation environnementale stratégique. Cela voudrait dire tout simplement que la République a plus ou moins le droit de connaître ce qui est sous la terre, même si ce n'est pas forcément pour aller vers une exploitation, mais il faut au moins connaître. Pour connaître, il faut mener des investigations. Parce que même dans l'optique d'une compensation, vous ne pouvez pas aller sur une table de compensation sans savoir ce que vous avez, ce que vous détenez. Sinon, vous discutez sur base de données aléatoires. Il faut au moins avoir... des statistiques ou des chiffres, des données bien maîtrisables, bien fiables, et cela passe par des investigations, ça veut dire plus ou moins les travaux d'exploration qui doivent être faits. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas polémiquer parce que ça ne se fera pas.
Il n'y a pas que la cuvette centrale qui regorge du pétrole. Hein. On l'a suivi dans ces reportages de notre collègue Paul Matendo. La côte atlantique, le Gabon du Tanganyika et le Gabon Albertine regorgent également des réserves énormes. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement congolais à opter pour la cuvette centrale alors que l'on sait depuis plusieurs années que cette cuvette centrale contient, n'est-ce pas, une réserve importante de la tourbière? Il y a cette tourbière qui s'y trouve.
Oui, mais Son Excellence, M. Didier Boudimbou, le ministre Zoukabir, était clair là-dessus. Personne ne touchera aux tourbières. Donc, et même les découpages, les redécoupages, la revérification des coordonnées des blocs dans la cuvette centrale ont été, une fois de plus, recontrôlées pour s'assurer que ces tourbières ne peuvent pas être touchées. Et même alors, l'autre fois, on a encore expliqué que avant tout travaux, début des travaux sur le terrain, il y a ce qu'on appelle étape de la matérialisation. Ça veut dire qu'il y aura des sondes sur le terrain, des géologues du ministère et la société qui va gagner les appels d'offres pour aller sur le terrain, se rendre compte que la partie des aires protégées, notamment les tourbières, ne fait pas partie des blocs qui sera mis dans lesquels les travaux vont commencer. Et les travaux de matérialisation consistent à mettre des bornages physiques sur le terrain et redéfinir encore ou recommuniquer les coordonnées définitives de ces blocs-là. Donc ça, c'est une question sur laquelle le gouvernement ne va pas transiger, parce que nous sommes respectueux nous-mêmes de par la législation des hydrocarbures, des normes environnementales. Donc ça, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de polémique là-dessus.
Merci, monsieur le conseiller. On vous garde encore dans cette émission. Blaise Mododossi, coordonnateur de l'ONG Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées en RDC. Et après avoir suivi les conseillers du ministre, comment vous réagissez, monsieur Blaise Mododossi?
Oui, monsieur le journaliste, je suis un peu content du fait que le conseiller du ministre revient sur les questions sur lesquelles nous avions beaucoup insisté. Et par rapport à ses attributions, parce que quand nous avons regardé la carte et toutes les informations par rapport aux différents blocs pétroliers qui pourront être mis sur le marché, il est clair qu'il y a certains blocs qui superposent des aires protégées et les zones de tourbières. Et certains blocs sont dans la cuvette centrale et nous sommes prononcés en disant que voilà, avec tout ce qu'il y a comme engagement pris par notre État et tout ce qu'il y a comme besoin, évidemment, hein, de la lutte contre les changements climatiques. Et nous savons que même nous, comme pays en développement, par rapport à l'adaptation, il y a aussi beaucoup plus de problèmes. Et aussi, comme on se présente comme pays solution par rapport à tous les enjeux climatiques actuels, il est très, très important qu'on regarde cette question. Alors, on s'est beaucoup posé des questions au niveau de la société civile. Et la première question, c'était est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller sur une vingtaine de blocs pétroliers au même moment? Et c'est la raison pour laquelle, dans notre position, c'était qu'on peut y aller progressivement en évitant vraiment d'aller déranger les tourbières et aussi d'aller déranger les aires protégées. Et peut-être commencer par les blocs maritimes qui sont là et aller progressivement, tout en regardant aussi beaucoup plus d'autres questions que vous aviez posées, hein, notamment liées à la transparence, notamment liées aussi à la gouvernance. Parce que quand on parle des 1000 milliards là, c'est vrai, c'est des montants. Quand on les attend comme ça, cela ne veut pas dire que bon, on est sûr que l'État pourra canaliser ça et pour que ça profite aux communautés, à la population. Déjà, le vrai problème aujourd'hui, c'est que le bloc là présenté, il y a des superpositions. Et je crois que les corrections devraient être apportées avant même d'aller vers les marchés pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit lors de la vente. Parce que quelqu'un qui a acheté, hein, il voit la superficie qu'il vient d'acheter. Et demain encore lui dire que avec les études qui pourront être faites sur le terrain que ce n'est pas cette superficie là on réduit, ça c'est déjà des sources de conflits. Et aussi je voulais aussi insister sur les exploitations dans notre pays. C'est pas la première fois qu'on va vers les exploitations des ressources naturelles. Nous sommes dans les mines depuis très longtemps. Et nous sommes aussi dans l'exploitation forestière depuis très longtemps. Mais quand on regarde les retombées hein, par rapport à toutes ces exploitations-là, sur évidemment le développement des communautés locales, des peuples autochtones, mais ça pose toujours des problèmes, on se pose toujours des questions. Et donc c'est vraiment à ce niveau-là le vrai débat, et nous pensons qu'il faut vraiment bien regarder la question pour ne pas tomber dans un piège où on va brader tout ce que nous avons, parce que aussi hein, un pays responsable devra aussi avoir des réserves stratégiques qui peuvent être aussi du pétrole à des endroits qui on peut se décider aujourd'hui de ne pas commencer à les exploiter maintenant, mais on le fera peut-être dans 20, dans 30 ans.
Monsieur Blaise Mododossi, parce que vous semblez vous opposer à cette démarche, quelle aurait été, selon vous, la meilleure approche pour aider le gouvernement à mobiliser les ressources financières dont il a besoin?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs façons d'avoir des recettes hein, dans notre pays. Si je pars, par exemple, de l'énergie, le secteur énergétique peut faire beaucoup d'entrées dans notre pays. Nous avons le lithium qui est là, hein, qui est aujourd'hui la solution par rapport à la transition énergétique. Tout ça, c'est nous qui avons la clé. Et c'est nous qui sommes le pays solution. Et donc, j'imagine que à ce niveau ici, c'est vrai, hein, on peut regarder d'autres aspects. Et l'agriculture est là. Il y a un potentiel énorme où on peut faire de l'argent. C'est vrai, le pétrole aussi. Mais est-il vrai qu'il faut regarder les impacts que peuvent avoir ces exploitations des hydrocarbures sur le plan environnemental et sur le plan aussi social.
Merci, Monsieur Luc Loutala, coordonnateur du projet Eco-Village et président de l'ONG Espoir pour tous, une ONG qui fait les reboisements à Kasangulu dans la province du Congo central. Et comment vous analysez cette démarche du gouvernement de pouvoir mettre en vente ces 27 blocs pétroliers et ces 3 blocs gaziers?
Merci beaucoup. Tout d'abord, rectifier le fait que Espoir pour tous est une ONG, effectivement, qui fait le développement des villages avec un volet sur l'agroforesterie, comme ça a été dit. Maintenant, la position du gouvernement est une position suffisamment délicate. D'une part, le gouvernement a des arguments qui sont fondés, et d'autre part, les craintes de Greenpeace et des autres collègues, tels que la PEP, sont fondées. Bon, du côté du gouvernement, tout d'abord, il faut se rendre compte de ce que le budget de la RDC aujourd'hui se situe à 11 milliards de dollars. Sur un besoin, quand on regarde les études de planification stratégique les moins ambitieuses, on estimerait que pour que la RDC arrive à l'émergence dans les 20 années à venir, il faudrait avoir un budget qui nage autour de 100 milliards de dollars. Et aujourd'hui, la RDC a 11 milliards de dollars. Alors, les potentialités de la RDC auraient pu laisser croire que le financement climatique, on a parlé de la RDC Pays Solution, mais on s'est rendu compte que l'accord de Paris, les fonds climat, le financement de l'agenda 2030 n'ont pas suivi les 100 milliards annuels d'années qui étaient prévus par qu'on appelle les pays pollueurs, on n'a pas suivi. Et le financement du développement à RDC est très, très, comme on s'en rend compte, très problématique. On a soulevé la question de l'armée d'autre part, quoi. Et donc, du coup, il se fait aussi que dans le contexte, comme le conseiller du ministre l'a souligné, on est en train de se rendre compte que les pays occidentaux, en fait, qui sont à la base plus ou moins des politiques de défense climat, ne s'y engagent pas eux-mêmes, l'Ukraine en exemple, plus ou moins. Bon, donc on a un contexte général qui autorise le gouvernement à réfléchir sur le moyen de financer son développement. Il va de soi, la crainte dans la communication du gouvernement devient patente à partir de ce moment-là, parce que on l'a suivi, que ce soit le conseiller du ministre des hydrocarbures, que ce soit le ministre de la communication. On sent que leur communication pose problème. Ils insistent sur le fait que les 30 blocs, dont les 27 pétroliers et les 3 gaziers, qui vont être attribués, le seront aux fins de financer l'armée. Ça veut dire, en fait, il va y avoir 2000 milliards de dollars que le gouvernement veut avoir pour financer l'armée. Déjà, ça pose un sérieux problème. Parce que l'attribution de ces blocs est un chantier, vous l'avez dit, très nouveau, très innovant en République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que la RDC va lancer un tel chantier international de financement. 2000 milliards de dollars, c'est énorme. Mais en contrepartie, il y a toutes ces questions, et j'insiste, je crois le conseiller est là et sûrement le ministre de la communication va suivre. Il aurait fallu qu'à ce niveau, il y ait des choses qui s'effacent de manière assez claire et de manière insistée, que ce ne soit pas des sous-entendus. Première chose, le gouvernement, à mon avis, est en droit de chercher à se doter des moyens, même si, dans les négociations, je doute que tous les 30 blocs pétroliers soient attribués, comme le disait Blaise tout à l'heure. Il y a sûrement des blocs qui vont faire l'objet des négociations parce qu'il y a le lobby international, notamment les blocs qui sont autour des tourbières et consorts et qui posent un tout petit peu de problème. Je ne vois pas des sociétés venir là-dessus parce qu'il y a toute la question des normes internationales, quoi. Donc, on peut s'attendre quand même qu'il y a un certain nombre de blocs qui vont poser des problèmes sur les questions des normes environnementales et des normes ISO, notamment en ce moment précis. Mais au niveau interne, je disais, il y a un sérieux problème qui est posé par la communication du gouvernement. De un, on a du mal à entrevoir le plan stratégique global de l'utilisation des fonds qui vont être récoltés. Malheureusement, que ce soit le conseiller, que ce soit le ministre, ont insisté sur notre fibre patriotique et nous sommes d'accord que nous avons besoin d'une armée forte sur le financement de l'armée, sans dire clairement que voilà, notamment dans les 5 années à venir, sur les 2000 milliards qu'on attend, on aura autant. Avec l'argent qu'on aura, on compte faire ceci, on compte faire cela. Et donc c'est assez malheureux qu'on assiste à cette communication un tout petit peu à la défensive de la part du gouvernement, alors qu'il y a tous les atouts pour faire une vraie communication de puissance, de stratégie et d'impact. D'autant plus que quand on regarde Moanda, on a le bloc pétrolier de Moanda qui est géré depuis des années, et ça n'a jamais vraiment profité au peuple congolais.
Voilà, mais
d'autant plus qu'il y a des insuffisances, et vous avez soulevé la question. D'autant plus que quand on parle d'attribution des blocs pétroliers, on sait bien dans le cas de Dan Gettler déjà, que le bloc qui lui avait été attribué a tourné ensuite en bourse et qu'après, il a fallu des acrobaties énormes et des pressions internationales pour qu'on récupère cela. Le problème ne se pose pas tant au fait que le gouvernement est en droit de chercher à exploiter les ressources dont nous disposons pour avoir suffisamment de financement, mais le problème se pose effectivement au niveau de la stratégie de gestion de ces fonds. Et effectivement, comme le Greenpeace l'a dit, le gouvernement devait par exemple maintenant dire quelle est la stratégie autour de l'impact sur les communautés et sur la biodiversité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toute exploitation des blocs pétroliers laisse lieu à des effets sur la biodiversité et sur le climat. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le vrai débat se situe. Comment est-ce que, quel est le plan de contingence, quel est le plan de management de ce défi à travers ce plan ici et effectivement les échéances de financement de ces financements qui sont attendus.
Oui, monsieur Luc Loutala, il n'aurait pas été plus efficace pour le gouvernement de chercher des partenaires avec lesquels, n'est-ce pas, il conclurait des contrats pour permettre à la société qui existe déjà, Sona Hydro, d'avoir la possibilité d'explorer et de produire, et pourquoi pas, de raffiner ces pétroles-là et ces gaz, au lieu de chercher d'autres partenaires à qui on voudrait attribuer ces blocs pétroliers.
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs hypothèses entre lesquelles le gouvernement a dû choisir et on n'a pas vraiment ce débat. Mais je suppose que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour gérer le pétrole ou les gaz comme la Russie. Et donc le gouvernement, à mon avis, est allé sur la solution qui est la plus facile pour lui, parce que après il faut mobiliser les investisseurs, l'investissement. Et l'autre problème qui est posé, notamment par votre question, et à laquelle le conseiller n'a pas répondu, c'est les attributeurs, ça veut dire ceux à qui on va attribuer, ne vont avoir que 20% des parts, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais d'où vient le reste de la mobilisation? 80% des fonds viennent d'où? Donc il y a énormément encore des questions qui restent soulevées, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, que cette hypothèse de faire exploiter le pétrole par une société nationale, un peu comme pour les Russes et Gazprom et consorts, pour le gaz, effectivement c'est une hypothèse, mais je pense que le gouvernement est allé sur une solution qui lui paraît la plus simple et la plus faisable.
Merci M. Tony Tiermani, conseiller du ministre des hydrocarbures. Vous allez réagir à tout ce qui a été dit ici par M. Blaise Moudodossi et puis M. Luc Loutala. Et, on sent qu'il y a un défi à relever. Et comment, à votre avis, on peut arriver à concilier les impératifs de la croissance économique et les impératifs de la préservation de l'environnement?
Bon, d'abord, il faut rectifier plusieurs choses. Je vais commencer par, bon, je vais ramasser comme ça parce qu'il a parlé de plusieurs choses. De par la loi portant régime général des hydrocarbures dit tout simplement que la participation de la société nationale aux activités d'hydrocarbures dans les cas d'espèce de la Sona Hydro est à 20% au minimum. Ça, c'est la part de la société nationale parce que dans chaque contrat qui sera signé sur le bloc, par bloc d'ailleurs, la société nationale aura une participation de plus ou moins d'un minimum de 20%. Mais, tout dépendra des négociations qui seront menées. Cette participation peut aller à 40, 30, 40, 50%, ça dépendra. Mais pas en descendant de 20%. Et les 80% dans les cas où la société nationale a 20%, les 80% reviendraient au consortium international ou national, parce que cet appel d'offres n'est pas limitatif que aux partenaires extérieurs. Non, même les sociétés locales, les entreprises congolaises peuvent y prendre part. Nous avons un cas ici à Mwanda, il y a une société congolaise, parce que peut-être le cadre n'est pas idéal pour citer son nom, mais il y a une société congolaise d'un partenaire congolais qui s'intéresse au bloc pétrolier. Ça, c'est une chose. De deux, il faut regarder, je l'ai dit au début, le contrat de partage de production, lorsqu'il est signé, il est contresigné pour la partie étatique par les deux ministres, le ministre des hydrocarbures et son collègue des finances. Ça a tout son sens. Parce que ce qui concerne le plan stratégique de répartition, d'affectation de ces fonds, je crois que le ministre des Finances, qui est l'argentier du gouvernement, est mieux placé suivant un plan stratégique y afférent pour savoir ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas notre... Nous sommes le secteur qui génère ces fonds. Et puis après, il y a tout un plan d'affectation de ces fonds. Alors, la troisième chose qu'il faut absolument retenir, c'est que il faut bien retenir que le contrat de partage de production, lorsqu'il est signé, les sociétés pétrolières n'attendent pas la phase de production pour s'occuper déjà du financement des projets sociétaux en faveur des communautés riveraines. Non. Déjà en phase d'exploration, il y a un budget qui est réservé au développement communautaire, au financement des projets sociétaux. Par exemple, lorsque un bloc est, par exemple, dans un coin, dans un territoire de l'Équateur ou c'est pas des sans-cours et tout ça, parce qu'il y en a, déjà, les cahiers des charges qui sera remis à la société par les communautés locales devraient directement lister le besoin de cette communauté en termes de développement qu'ils veulent. Par exemple, s'ils veulent de l'eau, ils veulent une école, ils veulent un centre de santé, ça c'est déjà résolu.
Est-ce que vous allez assurer les suivis pour que, effectivement, ces cahiers des charges soient respectés?
Il y a des mécanismes de suivi, parce qu'autour de ces cahiers des charges-là, il y a tout un comité qui est mis en place. Ce comité comprend notamment les chefs de territoire, comprend quelques autorités locales et les représentants de cette population locale-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est contrôlé. On a déjà eu un cas comme ça. Ça, c'est pas nouveau.
Je vous ai posé la question, comment vous pensez concilier les impératifs de la croissance économique, hein? Ça, c'est comme l'a dit M. Luc Boutala, le gouvernement a le droit, n'est-ce pas, de chercher à mobiliser les ressources financières. Comment pensez-vous concilier les impératifs de la croissance économique et les impératifs de la préservation de l'environnement?
Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière a beaucoup évolué. La cible peut se trouver à un point X. Mais le forage, par exemple, dans les cas de recherche ou d'extraction de ce pétrole, peut se trouver loin de cet endroit-là. Donc, lorsque nous remarquons, par exemple, qu'il y a un environnement à préserver absolument, on peut absolument, suivant les technologies qui ont beaucoup évolué aujourd'hui, ne même pas s'approcher de cet espace-là et travailler en distance. Vous avez aujourd'hui des forages inclinés qui peuvent être à une distance assez grande, hein, par rapport au lieu de l'exploitation. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il est impératif pour la RDC de pouvoir avoir accès à sa manne pétrolière pour développer le pays. Je vous ai dit, essayez de voir tout autour de nous. La force des budgets de tous les pays qui nous entourent, les pays pétroliers, se repose essentiellement sur cette manne-là. Il n'y a pas autre mécanisme de financer leur développement. Donc, on ne peut pas se mettre aujourd'hui à envier tous ces pays alors que nous avons cette ressource à notre portée.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion, n'est-ce pas, aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue à ces débats. Et Monsieur Blaise Moudodossi, on va suivre cet auditeur qui nous appelle depuis la province de Maniema et vous allez réagir, n'est-ce pas, à sa réflexion.
C'est David Soumaïl Moussafiri, je suis à Maza dans la province de Maniema. Je ne vois aucun inconvénient si tout sera fait suivant les normes et respect de la nature et de l'environnement. La RDC a besoin de fonds pour répondre aux multiples attentes de la population. Comment sera-t-il possible si on ne mobilise pas les moyens dans tous les sens? Vraiment, on ne doit pas voir le mal partout. Il nous vaut mieux, dans certains cas, privilégier l'intérêt commun pour notre propre bien.
Monsieur Blaise Zemoudodossi?
Oui, au fait, la question, elle est importante. Hein. Ce qui est vrai que... quand nous parlons ici, on regarde aussi ce qui se passe dans les autres secteurs d'exploitation. C'est bien beau de parler, des bons discours, mais qu'est-ce qui est en place pour rassurer que il n'y a pas d'impact sur le plan social et sur le plan environnemental? Par exemple, le conseiller vient de parler ici de la question de cahier des charges. Nous voyons ce que ça produit au niveau de l'exploitation minière et même au niveau de l'exploitation forestière, où il y a encore beaucoup de choses encore à revoir à ce niveau-là. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, ce qui est vrai est que on n'a pas encore tout le mécanisme en place pour assurer que l'exploitation qui pourra être faite, surtout quand on parle des zones à risque ou des zones à des protections, je crois que ça demande, comme le conseil vient de dire, il y a une nouvelle technologie qui peut le faire d'une certaine manière sans pour autant déranger. Et je crois que cela ne sera pas facile et ce ne sera pas aisé dans le contexte de notre pays, où il y a des soucis énergétiques, où il y a beaucoup de problèmes d'accès, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'on y va progressivement, de là où on peut exploiter de la manière la plus facile, vers les zones où ça peut être beaucoup plus compliqué.
Merci, Monsieur Luc Loutala. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga.
Freddy Bassoubi, depuis les Haut-Katanga. Je pense que l'appel d'offres lancé par le gouvernement congolais est un échec. Il fallait commencer d'abord par la prospection, en déterminant la teneur et les tonnages, mais aussi les minéraux accompagnateurs, afin que les contrats signés soient bénéfiques à la République démocratique du Congo.
Monsieur Luc Loutala?
La communication du gouvernement laissera beaucoup de compatriotes et beaucoup d'acteurs se dire « c'est mal planifié ». Je soulève dans le fond que moi je soutiens que si le gouvernement congolais doit avoir les moyens de sa politique, pourtant je salue la perspective même de l'attribution de blocs pétroliers. Mais la question de l'auditeur, et là je renvoie ma réponse à la fois au ministre de la communication et au conseiller. Même en suivant le conseiller dans la réponse qu'il donne, on sent une insuffisance de conviction par rapport à ce que les moyens qui vont découler de cette attribution vont prioritairement être attribués au développement du pays. On sent plus ou moins la défensive, le conseiller est en train de dire ce n'est pas à lui de parler du plan stratégique, c'est au ministre des Défenses. On sent de la...
Des finances.
Oui, au ministre des Finances, effectivement. On sent une certaine inconsistance, on sent une absence de conviction, on sent une absence de ferme volonté sur la mobilisation de moyens pour faire du Congo le Congo émergent. Hein. Et là, j'aimerais rejoindre Monsieur Blaise. Et qu'on nous cite, que ce soit autour des mines qui sont exploitées à tous les compatriotes, que ce soit autour des blocs pétroliers, des Moanda jusqu'à Kalemie et ailleurs, où est-ce que les mesures d'encadrement ont permis de développer une seule communauté, un seul village, qu'on nous cite un seul village qui a été développé. Et donc, lorsque le conseiller dit, voilà, on va voir que là où les communautés ont besoin de l'eau, là où les communautés ont besoin d'une petite route, on sent presque une lacune de planification, et je crois que c'est le plus grand mal. Ça veut dire on risque d'avoir effectivement une manne pétrolière qui va tomber dans les mains de quelques, dans les poches de quelques personnes, et on ne sent pas vraiment une stratégie d'innover par rapport à la gouvernance, par rapport à l'implication des communautés locales et par rapport à l'implication des ONG qui peuvent vraiment être les témoins du développement de... Et là, je crois on peut revenir plus ou moins sur ce que le gouvernement aurait pu faire et bien communiquer, quels auraient été les éléments de langage du gouvernement pour nous convaincre que effectivement cet argent est mobilisé pour notre bien à tous.
Justement, Monsieur Luc Loutala, nous sommes presque à la fin de l'émission. J'ai posé la même question à Monsieur Tony Tchermani. À votre avis, comment peut-on arriver à concilier les impératifs de la croissance économique et les impératifs de la préservation de l'environnement?
Le gouvernement aurait pu réunir une grosse table ronde autour de la stratégie de développement qui serait axée à partir de ces recettes-là. Premièrement, c'est ça. Il faut une grande concertation pour savoir comment est-ce que ces recettes vont être faites Je souligne que nous avons 78 885 villages. On n'a même pas un seul village développé. On a 311 villes, aucune ville développée. Et donc, les mannes pétrolières comme celle-là doivent faire l'objet d'une stratégie qui soit concertée et qui ait un consensus et qui mobilise toute la nation pour se développer. Parce que je prends une simple projection. On a un budget aujourd'hui de 11 milliards de dollars. Si on doit avoir dans les 10 années à venir 500 milliards de dollars, on n'est pas encore à 2000 milliards de dollars. Ça veut dire que le pays va complètement changer de configuration. Mais comment ça va se gérer? C'est ça le vrai problème.
Merci, monsieur Tony Kermani. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Mbujimayi dans le Kassai oriental.
Depuis la ville de Mbujimayi au Kassai oriental. En fait, la décision de vendre aux enchères n'est pas une bonne option. Nous nous demandons pourquoi le gouvernement ne peut pas envisager la création des industries pour l'exploitation locale du produit pétrolier également. Je crois que les ONG ont d'une part raison dans le sens où cette opération produira des effets néfastes si aucune précaution n'est prise pour la prise en charge des communautés locales et si rien n'est pris comme mesure préventive. Mais au-delà de tout, je crois que le gouvernement congolais doit, à un moment donné, laisser la politique de vente ou faire revendre les droits acquis. Il doit par contre développer la politique de transformation, d'exploitation et d'utilisation à l'interne. On a toujours dit que celui qui ne fait que vendre ce qu'il a ne progresse pas. Il s'expose et perd sa dignité. Il risquera de vendre son avenir et celui des siens. Bref, il se vendra lui-même.
Monsieur Tony Kermani, votre réaction est aussi votre mot de la fin parce que nous sommes à la fin de la mission.
On n'a pas assez de temps pour développer tout ça. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Alors, pour répondre d'abord à la question qui est posée, effectivement, nous n'avons pas que la production pétrolière. Les sociétés vont venir exploiter le bloc pétrolier, ça c'est une chose. Mais derrière, il y a tout un plan de développement de la chaîne de valeur dans les secteurs. Il y a la raffinerie, vous avez tout un système de distribution. Aujourd'hui, nous dépendons essentiellement des produits raffinés qui nous viennent de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Mais avec la production pétrolière, nous allons développer déjà toute la chaîne de valeur qui va s'assuivre. Il y a la raffinerie qui va se mettre en marche parce que l'exploitation va immédiatement faire arriver les investisseurs qui sont intéressés à la raffinerie et vous avez toute la chaîne de distribution qui existe et ça, c'est quelque chose qui va intéresser les nationaux pour le faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais rapidement quand même corriger quelque chose parce que ça se répète très souvent. Avant qu'une société ne puisse s'engager dans l'exploration, dans les travaux d'exploration, je vous ai dit qu'il y a l'étape de la matérialisation qui va consister à mettre le bornage, mais au-delà de ça, il y a une étape importante de la réalisation des types d'impact environnemental qui doit être validée par l'Agence congolaise de l'environnement. Donc, ne présentons pas la chose comme si les secteurs hydrocarbures, les activités du secteur hydrocarbures arrivent tout de suite pour faire mal à l'environnement. Non, jamais une société ne peut commencer même les travaux d'exploration sans que son étude d'impact environnemental ne soit validée par l'Agence congolaise de l'environnement. Et puis, rapidement, je voudrais revenir quand même sur deux choses. Il y a deux étapes qu'il faut faire le distinguo ici par rapport à cette activité. Il y a l'étape de l'exploration. Je vous ai dit, à cette étape-là, déjà de l'exploration, la société va déjà travailler avec ce qu'on appelle le comité de concertation. Le comité de concertation, c'est le comité composé par la communauté riveraine, la communauté locale, qui présente à la société son cahier des charges par rapport aux besoins qu'ils ont dans cette contrée-là. Mais évidemment, le développement relève du gouvernement, mais la société, de par les dispositions contractuelles, peut déjà répondre aux besoins de la communauté.
Merci.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Merci.
Merci. Blaise Moudodossi, votre mot de la fin aussi.
Je pense qu'on ne va pas refuser à l'État congolais d'avoir des moyens pour augmenter son budget. Mais il faut qu'il regarde comment et où est-ce que ces moyens-là peuvent venir. Et donc l'exploitation pétrolière peut être faite, mais dans des sites où il n'y a pas de réserves, de parcs nationaux, et dans des zones de tourbières et toutes les zones qui nous aident évidemment à lutter contre le changement climatique.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à vous, monsieur Tony Kermani, monsieur Blaise Moudodossi et monsieur Luc Loutala d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, à Kéline Kouté et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.